Bien, cher Vincent, j'aimerais à mon tour te remercier pour cette invitation à prêcher la parole de Dieu à deux voix dans cette église, l'une des églises de mon Saint-Patron, puisque tu l'as évoqué, ce d'autant qu'avec mon épouse, nous avons passé quelques jours chez toi à la cure fin décembre, lorsque la neige a bien voulu revenir pour annoncer l'hiver. Se retrouver ici devant cette assemblée me réjouit beaucoup. Je suis très impressionné, je dois le dire, par le nombre de clochers que votre curé du Val d'Hérens doit desservir. 20, si je suis bien réformé, bien informé, je voulais dire.
Oui, tu es bien réformé et bien informé. C'est vrai, j'ai 20 clochers, mais tu sais, c'est pas tellement ça l'important. Les chiffres, c'est pas très intéressant. Ce qui est important dans mon travail, c'est eux. Tu vois ces visages souriants, croyants, des visages de foi. Sans eux, ça n'aurait aucun sens. C'est pour eux que je fais cela et que j'ai la joie de le faire. Et puis, bien sûr, quand je parcours les routes du Val d'Hérens, comme ce matin avec toi pour revenir des Rémences, il y a les montagnes. Et les montagnes, c'est aussi ma joie, surtout celles d'ici.
Ah, les montagnes, comme je te comprends. J'essaye, mais ça va être un petit peu long d'apprendre les montagnes que l'on voit d'ici. Évidemment, la Dent d'Hérens, la Grande Dent, la Petite Dent, Dent de Perroc, Aiguille de l'Atsa, j'en passe et des meilleurs. Vous les connaissez mieux que moi, bien sûr.
Et la Dent Blanche, évidemment.
J'avais oublié l'essentiel. Elle est la plus belle. Et on la voyait depuis notre fenêtre ce matin. Ces montagnes, je les trouve imposantes, où que j'aille, en vallée ou ailleurs, et je ne peux pas, lorsque je les regarde, ne pas penser à ce psaume dit des montées, justement, un psaume de pèlerinage. Quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? C'est vrai. Ici ou ailleurs, je sens que les sommets symbolisent tout à la fois une beauté, une chance, mais aussi une menace.
Oui, tu sens bien le contexte de vie de nos villages. La montagne peut être une menace, elle nous le rappelle parfois. Elle nous a pris des êtres chers. La montagne est aussi une chance, elle nous donne bien de ses trésors. La nature ici garde tous ses droits, comme dans le psaume. Et il y a un vrai paradoxe pour les gens qui vivent entourés de montagnes. En levant les yeux, on peut être saisi par la peur, suivant quand, et aussi être saisi par l'admiration, l'élan vers les hauteurs. C'est peut-être ça qu'on appelle la crainte. Dans la Bible, la crainte, ce n'est pas la peur, c'est le respect. Et c'est peut-être cette crainte biblique que l'on ressent face aux montagnes, ici comme ailleurs.
Tu redis bien cette crainte biblique et certainement humaine ici, qui mêle à la fois l'admiration et la peur. L'un n'empêche pas l'autre, en effet. Je vais te dire que chez moi, c'est un petit peu la même chose, mais avec le lac. Le Léman m'attire et me repousse à la fois. D'ailleurs, dans bien des récits d'évangiles, les plus grosses peurs des disciples de Jésus se passent sur un bateau, justement, lorsque les eaux sont déchaînées. Et quand je suis moi-même sur l'eau, par exemple avec le petit bateau de mon père, et qu'il y a un jour de gros temps et que les feux se mettent à tourner, je prie avec les mots du psalmiste, je lève les yeux vers les montagnes, puisqu'il y en a aussi au-dessus du Léman, d'où me viendra le secours ?
Tu vois, ça m'est arrivé aussi il n'y a pas très longtemps. Un matin, de grosse neige, en revenant des Rémences pour célébrer la messe ici, alors que sur la petite route de la Traverchire, ma voiture chassait de l'arrière dans les virages, j'ai levé les yeux vers le ciel en demandant au Seigneur de me protéger et de me faire un petit signe. Et au moment où j'ai levé les yeux, j'ai vu un hélicoptère d'air glacier qui faisait le même chemin que moi et qui allait peut-être sauver des gens en montagne. C'était peut-être pas un signe, et c'était peut-être quand même un clin d'œil.
Je crois aussi que ce devait être un clin d'œil, clin d'œil. Et j'aime bien ton exemple. Mais je réalise aussi que si toi ou d'autres lèvent les yeux pour en recevoir le salut, qu'on peut aussi lever les yeux vers le haut et se laisser malheureusement abattre. Je pense maintenant à ces pauvres exilés de Jérusalem, au bord des fleuves de Babylone, et dont on a prié un si intense psaume. Ils restent assis, ils sont tout éplorés, ils ne parviennent même pas à lever les yeux vers les branches des saules auxquelles ils ont suspendu leur harpe. Quelle tristesse que celle de ces yeux rivés vers le bas et de ces destins tirés vers en bas.
Oui, le psaume d'aujourd'hui le disait très très bien. Quelle tristesse et quelle colère même. Et ça nous arrive à chacune, chacun d'entre nous, de baisser les yeux et d'être triste ou en colère. Alors il nous semble que rien ne peut nous relever. D'ailleurs, la colère finale de ce psaume le dit très bien. Ces exilés-là, et ça nous arrive, sont dans une dynamique de mort parfois. Ça me fait penser à notre deuxième lecture, tu sais, ce passage de la lettre aux Éphésiens, où les étrangers aux promesses d'Israël étaient eux aussi comme morts, soumis à d'autres puissances. Ils n'avaient plus confiance. Il n'y avait plus de force qui puisse leur venir de l'intérieur.
Bien vu, mon confrère curé. C'est exactement ça qui est décrit dans votre seconde lecture pour ce dimanche. Des hommes et des femmes à bout de batterie, je dirais même sans ressort aucun qui permette de se relever. Des morts vivants, quoi. Mais voilà qu'ils sont relevés par la mort victorieuse du Christ, incapables qu'ils étaient de le faire par eux-mêmes. Ils n'y sont pour rien. C'est cadeau. Un cadeau qu'il suffisait ou qu'il suffira d'accepter.
C'est vrai que pour nous relever, peut-être plusieurs d'entre vous en font l'expérience, il suffit parfois d'accueillir la grâce de Dieu. Et elle vient gratuitement. Elle est cadeau. Mais il faut la recevoir. Ça me fait dire que cette lettre aux Éphésiens, tu vois, elle aurait peut-être pu être écrite par Luther ou Calvin, parce qu'il y a cette idée de la grâce gratuite. On n'a rien besoin de faire pour que cette grâce de Dieu nous soit envoyée. Et ça, c'était un peu leur idée. La lettre aux Éphésiens, au fond, c'est une lettre aux effets bien protestants.
Vraiment, tu crois ?
Oui. La preuve, c'est que les œuvres suivent la grâce. Tu as entendu que ce passage conclut ainsi : nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y engagions. On dirait presque que tout est préparé d'avance, que toutes nos œuvres sont prédestinées. Ça, c'est protestant, non ?
Je ne veux pas te contredire, mais tu crois vraiment que cette lettre serait, avec cela, plus protestante que catholique ? Moi, pas. Parce que je crois que l'engagement des uns comme des autres, c'est une prière de Dieu à l'homme, de quelque confession qu'il soit. Une prière qui résonne comme ceci. Je me suis engagé corps et âme pour vous, je suis descendu pour vous relever, alors comment pouvez-vous ne pas lever les yeux vers moi ? Comment ne pouvez-vous pas vous engager à votre tour ?
Dieu qui nous demande de faire ceci ou de faire cela, tu es très catholique, Jean-Baptiste.
Tant mieux. Et alors pourquoi pas ? Sur ce point ou d'autres, je me sens assez catholique. Catholique réformé, tant pis. Quand il s'agit de dire que Dieu compte sur nous pour continuer pour lui ce qu'il a commencé en Christ. Et je vais te dire, je serais même assez catholique pour interpréter le passage de l'Évangile selon saint Jean comme un passage des Écritures qui nous invite à la foi, à la contemplation et à l'action. Tiens, Jean l'évangéliste nous invite à faire comme le peuple hébreu autrefois dans le désert. De même que ce peuple devait lever les yeux vers le serpent d'airain au temps de Moïse pour échapper à la mort et aux morsures des serpents, de même, nous devons lever les yeux vers le Christ pour passer ici-bas déjà d'une vie morte à une vie vivante ou échapper aussi à des morsures. Et ça, je vais te dire, et je le dis devant ta paroisse, je trouve que c'est une chose que vous savez quand même faire un peu mieux que nous. D'abord, s'arrêter, contempler, adorer, prier les laudes comme vous l'avez fait ce matin, faire silence, quoi, avant de passer à l'action.
C'est aussi une caractéristique des montagnards d'ici, tu sais. On s'arrête, on regarde où on va, avant de partir tête baissée, on regarde le ciel, on prend le temps de confier notre marche à Dieu, et puis on avance. Un temps de prière précède l'action. C'est vrai. D'ailleurs, tu as remarqué en quels termes saint Jean s'adressait à nous. Celui qui fait la vérité vient à la lumière.
La vérité.
Il fait d'abord et il vient ensuite à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées. Il s'agit d'une vérité pratique. Les deux pieds bien sur terre, ce n'est pas une vaste théorie comme on est en train d'en faire nous. D'ailleurs, il faudrait qu'on s'arrête gentiment.
Oui.
Mais pour terminer, Jean-Baptiste, il me semble qu'en ayant dit tout ça, il me semble quand même que toi et moi et nos deux églises ont communié à la même foi. C'est le même Christ qu'on adore, c'est le même Dieu.
Mais bien sûr, c'est une foi en ce Dieu qui nous bénit et que nous pouvons bénir à notre tour. Ou comme le dit un autre passage de la même lettre aux Éphésiens, il y a un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. C'est un peu comme on le fait à chaque célébration, à chaque Eucharistie ou à chaque Sainte Cène. D'ailleurs, à ce propos, mon cher Vincent, je vous ai amené une surprise pour cette messe ici. Je vous ai amené le plus vieux calice vaudois qui se trouve précisément dans ma paroisse ou ma commune de Belmont. Il date du début du XIVe siècle. Autrefois utilisé, bien sûr, pour la messe catholique, il est utilisé depuis le XVIe siècle pour la communion, selon le rite protestant. S'il y avait un musée à Belmont, comme il y en a un à Évolène, on l'aurait mis au musée, mais il est dans un coffre-fort et je n'en ai fait sortir. Je trouve que ce calice symbolise à la fois une rupture et une continuité. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'il nous parle, qu'il nous fasse parler plutôt de continuité et d'unité.
C'est donc un calice qui servait à la messe catholique et qui sert aujourd'hui au culte protestant.
C'est ça.
Eh bien, il va servir à l'Eucharistie d'aujourd'hui, tu veux bien ?
Oh, que je veux !
Ce sera ma manière aussi de boire à la même coupe que toi et de te demander pardon, Jean-Baptiste, pour toutes les fois où notre Église catholique a été dure avec nos frères et sœurs protestants, pour toutes les humiliations, les vexations, toutes les erreurs aussi qu'on a commises envers vous. Ça sera ma manière de te demander humblement pardon.
Et comment ne pas penser au nom de mon Église et de certains de ses membres ou dirigeants de vous demander pardon aussi pour le nombre de bêtises dites ou redites ou répétées comme des perroquets sur les catholiques, ceci, cela, et en les méconnaissant.
La miséricorde de Dieu est infinie. Merci Jean-Baptiste.
Merci Vincent.